On est très heureux de vous accueillir sur cette journée d'études PIND, Punk is not dead, consacrée à la scène punk à Lyon. On va se présenter rapidement, puis après on va vous présenter le projet. Toute la journée se déroulera selon le programme. Voilà, donc on est quand même tout un petit noyau à avoir organisé cette journée sur Lyon. Alors moi je m'appelle Luc Robben, je suis professeur à l'université de Bordeaux, je suis historien et également musicien.
Voilà, bonjour à tous, moi je suis Solveig Serre, je suis chercheur au CNRS et je suis, on va dire vite, historienne et musicologue.
Moi je suis Philippe Gonin, je suis maître de conférence musicologue à l'université de Bourgogne, mais je suis lyonnais d'origine, de souche et de cœur d'ailleurs. Je suis très content de revenir ici à chaque fois et je suis également musicien de temps à autre.
Oui, bonjour. Merci à tous d'être venus ce matin. Moi, je viens du terrain. Voilà, j'ai habité un lieu qui s'appelle la Miroiterie à Paris, un squat qui a perduré pendant 15 ans. Et je suis ravie d'organiser aujourd'hui avec Philippe Lyotard et puis Philippe Gonin, Luc Robben et puis Solveig Serre cette 20e journée d'études Punk is not dead à Lyon. On vous a réservé un beau programme.
Alors, je m'appelle Philippe Lyotard, je suis stéphanois de cœur et je travaille à Lyon depuis 2002 avec tout ce que ça comporte comme renoncement à son identité initiale. Et j'ai renoncé effectivement à venir aujourd'hui avec un maillot MF Manu France, un maillot vert qui aurait pu produire un certain nombre de réactions, y compris dans la scène punk lyonnaise. Alors sinon, j'étais en lien avec le NTH8 qui nous accueille et qui a fait, comme vous l'avez vu, donc un travail d'organisation. On va aller assez vite parce qu'il va y avoir, il y a le programme que vous avez sous les yeux, il y aura quelques inserts de vidéos. Georges Ray, notamment, qui n'est pas là ce matin, qui sera là cet après-midi, nous a permis d'utiliser ses films, qui sont des films d'archives, hein, qu'il a produits entre 77 et 78 sur la toute première scène punk lyonnaise. Donc on aura comme ça des choses qui ne sont pas au programme et qui vont scander la journée. Et cette journée, je la laisse introduire à Luc et Solveig.
Bien, alors d'abord, on contextualise un petit peu ce mouvement punk. Au tournant des années 75-76, des radicalités sonores et rythmiques inédites embrasent subitement le monde occidental. Dans un contexte de crise qui marque la fin des années de croissance d'après-guerre, les chocs pétroliers 73-79, une multitude de formations musicales, essentiellement blanches, sont désignées par les médias et par l'industrie musicale, ou s'autodésigne comme punk. Le terme qui est issu de l'argot signifie tout ce qui n'est pas recommandable, vaurien, voyou, pourri, homosexuel, prostitué. Il appartient à toute cette série de mots en quatre lettres qui définissent les jurons fuck, shit, punk évidemment. Après le dadaïsme, le surréalisme, le situationnisme, le punk s'impose comme la dernière avant-garde du XXe siècle. Il adosse sa partition à la critique mordante de l'establishment, Anarchy in the UK avec les Sex Pistols en Angleterre, par exemple, et au refus de toute forme d'autorité. Et il va inscrire son désespoir dans la provocation, définir ses propres perspectives d'avenir, dans l'absence d'avenir précisément, en tout cas au début, no future. Par sa philosophie du do-it-yourself, du bricolage, il constitue la matrice originelle du rock alternatif. Il incarne enfin un modèle de création en résistance qui se diffuse bien au-delà de l'épicentre occidental blanc aujourd'hui. Hein. Depuis le début du XXIe siècle, il est porté par les luttes pour l'émancipation des jeunesses militantes de tout pays, en Indonésie, en Iran, etc. Aujourd'hui, il y a des punks partout, en Chine, souvent au risque de leur liberté et parfois de leur vie. Donc Chine, Iran, Indonésie, Madagascar, Mozambique, Kenya, etc.
Alors c'est par hasard, c'est toujours la vidéo qu'on montre pour illustrer qu'est-ce que c'est le début du punk en France. Il se trouve que là, en fait, c'est une vidéo de Star Shooter, donc aujourd'hui, ça a encore plus de sens que d'habitude.
Ils sont les meilleurs, c'est la légitimité.
voilà, c'était un des premiers films de Georges Rec que nous allons voir aujourd'hui. Georges Rec a donc filmé parmi les premiers groupes, donc Star Shooter, Electric Callas, dont on verra un extrait tout à l'heure avant de partir déjeuner, et puis également Marie et les garçons, qui sera projeté notamment avant la présentation de Que fera Marine cet après-midi.
Voilà, donc une musique qui va revendiquer sa simplicité. Dans Sniffing Glue, au milieu des années 70, on voit apparaître cette image. Vous êtes capable de faire trois accords, en gros, ça veut dire faites un groupe. C'est ce qui va caractériser l'explosion punk au milieu des années 70. C'est tout d'un coup cette capacité à dire, ben voilà, je sais jouer ou trois accords ou deux ou trois, et je monte sur scène et puis je vais envoyer du bois, comme on dit. Voilà. L'autre perspective du punk, c'est de s'inscrire en rupture par rapport à la musique établie. Globalement, alors en déboulonnant les statues dorées à leur fin du type Beatles, en détournant de manière provocante, provocatrice, et puis aussi en s'opposant à toute la musique dont on estime qu'elle est trop compliquée, trop savante, voilà, les groupes de stade, etc., la musique progressive. Donc ça, ce sont des aspects très importants pour comprendre au démarrage ce qui se passe. Et en même temps, le punk, c'est une musique qui va revendiquer un certain nombre de racines, du côté des Stooges, par exemple, Iggy Pop, du côté des New York Dolls, voilà, du côté de Patti Smith aussi, et de toute la scène new-yorkaise. En France, cette rupture, cette coupure des années 70, elle est marquée par un événement assez remarquable qui est le festival de Mont-de-Marsan, premier festival punk du monde, donc 1976-1977, deux éditions. Alors on est bien dans ce côté do it yourself, parce que finalement, quand on discute avec les organisateurs de ce festival, avec André-Marc Dubos et quelques autres, là, Anna, bon, ils disent bien, ben voilà, on était autour d'une bière, on a décidé qu'on allait faire ça. On avait déjà organisé Ian Watchroads, on a dit on fait un festival punk, voilà. Avec Zermati qui avait le carnet, etc. Donc 76-77 marque, dans la mémoire collective, le début de quelque chose. Et pas seulement pour les Français d'ailleurs, également pour les Anglais. Mont-de-Marsan devient en quelque sorte la capitale du monde pour tous les punks du moment. Vous avez quelques images, on voit. C'est intéressant de regarder d'ailleurs même au niveau des looks. Quand on regarde du côté de Clash, on voit bien le look, les spikes, etc. Mais on voit aussi des cheveux longs. Enfin, c'est une période de transformation, d'hybridation, de transition sur ce que va être le look punk du milieu des années 70, qui n'est pas la crête, qui n'est pas encore le cuir, mais qui est plutôt les spikes, les vêtements déchirés, les épingles à nourrice. Et très rapidement, janvier 78, séparation des Pistols, il y a beaucoup de gens qui considèrent encore aujourd'hui que c'est la fin du punk. Punk, en gros, 76-78. Alors, c'est du reste qui nous a intéressé dans le projet, on y reviendra dans un instant, c'est cette question de fin du punk ou pas, et quel est ce mouvement qui s'annonçait sans futur et qui est toujours là 40 ans après. Alors, on travaille sur 40 ans de réinvention du punk en France. C'est vraiment notre objet de recherche. Alors, un premier achèvement en 78, mais comme je viens de le dire, le mouvement se réinvente. Dans les années 80, si on reste... Alors globalement, le contexte révolution libérale et conservatrice, on connaît l'histoire, Reagan aux États-Unis, Thatcher en Angleterre, émergence d'un courant, d'un courant plus dur, avec le hardcore, bon, des groupes aux États-Unis comme les Dead Kennedys. On va voir émerger des groupes comme ça qui correspondent finalement à un engagement politique beaucoup plus important. Et puis en France... Au moment où la gauche arrive au pouvoir, avec beaucoup d'espoir, très rapidement, le tournant de la désillusion en 83, la montée du FN, thématique du racisme, de l'immigration qui devient prégnante, et on voit de quelle manière le mouvement punk français va se réinventer aussi dans son message, un message qui va se politiser. Alors la musique se transforme, on aura l'occasion d'en rediscuter, mais aussi l'engagement politique et ce qui est dit sur scène, évidemment, prend une autre couleur. Au-delà des années 80, où on va voir émerger, à partir du noyau punk, une scène dite alternative, donc au-delà des années 80, les années 90, dans un contexte mondial caractérisé par mondialisation, émergence d'Internet, du village global, des grandes peurs, pollution, pandémie, famine, auxquelles vont répondre des problématiques qu'on connaît bien aussi, de l'agenda 21, écologie, santé, citoyenneté, les jeunes générations punk vont impulser à la musique et aux formes de résistance un souffle nouveau avec des thématiques autour de l'écologie, très militante, finalement assez proche, pouvait être le message des hippies, donc assez éloigné du destroy punk des débuts. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Émergence de segments plus radicaux, vegan, straight edge, et puis aussi sur le versant féministe, hein, Riot Girl, alors que certains groupes plus anciens poursuivent leur route. Il faut 40 ans de punk, c'est pas juste une succession d'idéologie ou de manière d'être, c'est aussi une superposition à la manière de couches géologiques. Aujourd'hui, il y a les punks contemporains, mais en même temps, les premiers groupes, certains existent encore. Les groupes de la deuxième génération des années 80, les Quepons, certains existent encore. Donc c'est toute cette épaisseur, au fond, qu'on ait ce tuilage générationnel, musical, artistique, sociopolitique, qui enrichit le punk, qui le réinvente constamment. Et c'est autour de ça qu'on travaille sur la scène punk en France, ce qui ne veut pas dire franco-française. On va en discuter dans un instant.
Notre projet, j'ai appelé ça un projet pour quoi faire. La première chose qui nous est apparue, on s'est rencontré avec Luc il y a 5 ans, et moi je travaillais, c'est comme ça que j'ai rencontré Laurence, c'est pour ça que je suis très contente qu'elle soit là aujourd'hui. J'avais fait un travail de terrain de 6 mois autour du squat de la Miroiterie, voyant qu'ils allaient se faire expulser, et je m'étais dit que c'était dommage de perdre leurs archives, et que une fois que l'expulsion aurait eu lieu, on pourrait plus écrire l'histoire du squat, qui avait quand même 15 ans. Et donc j'ai rencontré Michel qui est aussi là, Laurence, et on a commencé ce travail. Et puis quelques mois plus tard, j'ai rencontré Luc, et on s'est dit que ça serait bien de faire ce que j'avais fait sur la Miroiterie, mais à beaucoup plus large échelle. Et on a lancé ce projet au début tous les deux, qui a bien évolué depuis avec une vraie équipe, un financement, etc. L'idée, c'était j'ai pris cette photo, j'ai fait dans la grosse caricature, mais quand vous allez dans la rue, vous demandez, vous parlez de punk pour les gens, voilà sur quoi on travaille, un marginal avec une crête, un chien. Il y a des piercings, des bijoux, un peu crade, voilà. Bon, l'idée, c'était évidemment de montrer que c'était bien, bien, bien autre chose, le punk. Et donc, en faisant ça, en le faisant rentrer à l'université et au CNRS, essayer quand même d'expliquer qu'il y avait des objets, qu'il n'y avait pas d'objets illégitimes de culture, et qu'on pouvait aussi travailler de manière correcte sur ce mouvement.
Autre mœurs, êtes-vous punk ? Bon, c'est facile à vérifier, vous vous mettez en face d'un miroir. Si vous avez les cheveux courts, jaunes, verts ou rouges, si vous avez une épingle ou un clou planté à travers la joue, si vous avez de petites croix nazies dessinées sur le front, bref, vous êtes un paumé et vous êtes un punk, c'est la traduction anglaise. Et si vous êtes punk, vous serez sans aucun doute ce soir ou demain à Mont-de-Marsan pour le premier festival de punk rock, la musique de ce nouveau phénomène social. Marginal, bien sûr, comme tous ces mouvements de révolte qui se sont succédés depuis les zazous, les rockers et les hippies. Avec le punk, la philosophie est simple, révolte intégrale, toujours plus loin dans la provocation. Le punk vient d'Angleterre. Claude Gagnère, notre correspondant à Londres, a rencontré ses paumés.
Voilà, préjugé en 76, vous voyez que c'est pas beaucoup changé. Alors là, j'avais mis une photo un peu caricaturale, mais faire rentrer le punk dans notre institution, là, ça a l'air facile parce qu'on est une petite équipe, qu'on se connaît depuis longtemps, etc. Mais en réalité, l'institution voit pas forcément d'un bon œil ce travail sur les marges et sur la culture illégitime. Donc c'est aussi tout un enjeu du projet, c'est arriver à faire accepter à nos institutions dans lesquelles on travaille qu'on peut travailler sur ce genre d'objet et que ça relève pas du canular scientifique. Alors l'autre gros but du projet, c'est aussi de préserver une mémoire qui est vulnérable pour plusieurs raisons. D'une part parce que les acteurs sont vulnérables, parce qu'on parle d'un mouvement quand même dont les acteurs ont eu souvent un mode de vie difficile, on va dire, donc la drogue, pas forcément un logement, la vie en squat, etc., qui fait qu'il y a toute une scène qui est en train de s'éteindre aujourd'hui, donc depuis 5 ans à peu près, même avant, et que à chaque punk qui meurt, en fait, c'est les archives qui disparaissent, les familles elles mettent à la benne, elles se rendent pas compte de ce qui est, que c'est en fait des archives importantes, et du coup il y a eu un vrai travail d'urgence. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de journées depuis le début du projet, qu'on s'efforce d'en faire une par mois, à la fois à Paris et en province, pour arriver à générer des réseaux, des acteurs et à terme voir ce qu'on peut collecter en termes d'archives pour préserver cette mémoire et arriver à l'écrire. Voilà, là on vous montre, on a mis des photos sur le travail qu'on peut faire avec des archives punk. Là il s'agit en fait du groupe Les Salles Majestés qui nous ont confié 35 ans d'archives. Donc vous voyez, on les trie, on les range, on les met dans des cartons neutres pour les protéger, on les inventorie et à terme on va les numériser pour qu'on puisse y accéder facilement. Et la dernière chose qui nous semblait très importante, Luc et moi, c'était enfin de placer la musique au cœur de cet objet punk. Parce qu'il y a beaucoup de travaux d'anglo-saxons sur le punk, mais on en revient toujours à la politique. Il y a très 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 peu de travaux qui parlent de la musique. Et il nous semblait que, c'était avant tout une musique qui générait des émotions et que c'était l'une des rares contre-cultures dont la musique était le centre. Alors, c'est pas le tout, ça constitue pas tout, évidemment, mais la musique, c'est vraiment quelque chose de central dans le punk, d'où découlent plein d'autres choses, une manière d'être, un mode de vie, etc. Mais vraiment, la musique, c'est le cœur. Et c'est pour ça qu'on a appelé ce projet pour une histoire de la scène punk en France, parce que scène, c'était un mot qui nous... on l'a pas conceptualisé comme le font les sociologues, on l'a pris vraiment au sens des musiciens, c'est-à-dire une espèce d'endroit qui fédérait un ensemble d'acteurs qui avaient un rapport avec la musique, que ça soit des publics, que ça soit des disquaires, que ça soit des musiciens, que ça soit tout ce qui tourne autour des musiciens, la presse autour de la musique. Donc c'était ce qui nous paraissait correspondre le mieux en fait à ce qu'on voulait mettre, au fait de remettre la musique au centre. Alors notre projet, on va aller très vite, mais c'est pour que vous compreniez, parce que dans le programme de la journée, on retrouve toujours ces thématiques qui sont déclinées en fonction de la spécificité des lieux. On a 4 grands chantiers de recherche. Le premier, c'est le temps. Comment cette culture musicale spécifique s'inscrit-elle dans le temps et sur la longue durée ? Le premier sous-axe de recherche, c'est tout ce qui est autour des ruptures et des continuités temporelles. Pour faire vite, 3 grandes générations, Luc en a parlé. La première, le vrai punk, pour ceux qui sont en quête d'authenticité, c'est-à-dire le punk des origines. Le deuxième punk, on va dire vite, je parle sous contrôle de François, mais l'anarcho-punk, voilà, avec des revendications beaucoup plus dures, qui est dans la continuité de la première génération, mais pas exactement identique, même au point de vue du rythme, au point de vue du son, au point de vue des looks, etc. Et la troisième génération, beaucoup plus hybridée. J'ai pris Tagada Jones, qui est assez hybridée métal, avec des thématiques différentes. Il y a une chanson là dans le dernier album, je crois, qui s'appelle... c'est pas nos futurs, mais c'est un futur pour demain. Donc des choses qui évoluent sur... d'où l'intérêt de travailler sur un temps qui est long, en s'interrogeant sur toutes les ruptures et continuités. Voilà, là, on vous a mis aussi 3 looks qui étaient assez caractéristiques des 3 périodes... Voilà, Cabu, le punk en 77, un punk à crête, et puis aujourd'hui, les punks hybridés, qui courent, comme les thématiques, avec des dreads, etc., vegan. Le deuxième sous-chantier autour du temps, c'est évidemment autour de la mémoire. Donc on a pris 2 petits exemples. Après, c'est la vieillesse en mer de Front National, justement, parce qu'au début, c'est sûr que c'était un mouvement de jeunes, mais les gens ont vieilli dedans. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de vieillissement, etc. Et l'autre volet, c'est tout le volet patrimonial. Est-ce qu'il faut mettre le punk au musée comme on mettrait des animaux du zoo dans le zoo, justement ? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus fin à faire autour de cette question de la patrimonialisation, de la sauvegarde de la mémoire, etc. Le deuxième chantier, c'est l'espace. Comment une culture musicale s'inscrit-elle donc dans l'espace géographique ? Alors là, l'idée, territorialité et mouvement, c'était... Mais vas-y, je te laisse parler, j'ai beaucoup parlé.
Bon, c'est regarder un petit peu comment justement cette culture punk en France, cette musique s'inscrit dans l'espace, en fonction de lieux évidemment différents. D'abord dans le rapport évidemment urbain-rural, mais aussi par rapport à des aires géoculturelles différentes. Bon, on a mis les Ramoneurs de Menhirs, c'est un exemple parmi d'autres, mais pour montrer de quelle manière les cultures peuvent s'hybrider entre le punk tel qu'on l'entend et puis aussi une culture locale. Et on ira aussi au Pays Basque pour voir ce qui se passe. On était dans les Vosges chez Narcisse la semaine dernière. On voit aussi des spécificités. Donc c'est regarder, au fond, quand on parle de scène punk en France, c'est au fond regarder les scène punk en France et leurs spécificités. La deuxième idée, c'est regarder cet espace de manière dynamique. Les choses sont pas figées, les acteurs sont en mouvement et les frontières sont des frontières qu'on peut traverser. On le sait dès le début. Des groupes partent en Angleterre, des groupes français partent en Angleterre. Metal Urbain va signer chez Rough Trade à Londres, les Stinky Toes vont jouer à Londres au 100 Club. Bon, on sait qu'il y a Little Bob tourne aussi à Londres. Les Français s'expatrient et puis inversement, des Anglais, des Américains, des Suisses viennent jouer en France. Parfois s'y installent. Je pense à UK Subs par exemple, musicien installé en France. Bon, donc l'espace il est aussi dynamique. C'est regarder. On veut aussi regarder comment la scène punk en France Quelle image on donne de ce punk en France depuis l'étranger, par exemple? C'est un autre chantier. Vous voyez, regardez un petit peu comment cette musique, cette culture punk est construite, s'ancre dans l'espace de manière différenciée. On travaille aussi, c'est le troisième chantier, sur les systèmes de représentation. Alors, médiatisation, médiation de la scène punk, comment cette scène punk est-elle représentée dans les médias notamment, mais pas que, alors les médias au sens très très large du terme, mais aussi quels sont les dispositifs de médiation, c'est-à-dire comment on a cherché à présenter le punk depuis le début. On parlait tout à l'heure de rock and folk and best, moi je me souviens d'un rock and folk en 77 qui m'avait marqué, parce que tout d'un coup il y avait un roman photo punk. Ça paraît assez... Mais on jouait avec les codes déjà, et c'est Stinky Toys qui s'était collé à l'exercice et envoyait la vie d'un groupe punk modèle. Donc il y avait comme ça tout d'un coup une manière de présenter ce qu'était le punk, et on avait là un beau dispositif de médiation à l'intérieur même du média. Bon, on voit Punk Story, voilà, en l'occurrence. Donc travailler sur cette question, évidemment les médias c'est aussi les fanzines, on n'en a pas parlé, mais le fanzine, les punks n'ont pas inventé le fanzine, mais ils se sont très largement adossés aux fanzines, l'ont fait exploser en quelque sorte, et c'est évidemment une littérature et une forme de médiation tout à fait particulière qui nous intéresse énormément. Alors il y a les fanzines, il y a des magazines. Alors l'autre aspect dans ces représentations, c'est travailler sur... ce qui peut paraître au départ extrêmement éclaté, anarchique, kaléidoscopique, le punk, il n'y a pas de revendication comme ça d'esthétique particulière, mais on se rend compte quand même que quand on commence à examiner les looks, les sonorités, ben on voit de la cohérence apparaître. C'est pour ça que Solveig parlait de génération, parce que on voit de quelle manière, à un moment donné, on va parler de punk à crête et de blouson clouté. C'est pas dès le début, c'est à un moment donné et ça correspond à un certain type de son. Donc il y a des formes de cohérence comme ça qui arrivent, hein, et qu'on peut reconstruire et qu'on peut documenter. Oui, puis on a mis en même temps De Niro, parce que c'est pas un hasard si la crête émerge au moment où Taxi Driver va être publié en 80, voilà. Alors autre aspect, les liens sociaux, les rapports sociaux, et notamment on a toujours représenté le punk comme étant quelque chose de violent. Travailler sur cette question de la violence, qu'elle soit réelle, imaginaire, fantasmé, travailler sur la violence des émotions, c'est aussi aller travailler par exemple sur le pogo, qui devient la pratique corporelle la plus évidente pour les punks, une manière d'exprimer quelque chose, mais on est dans l'émotion de la musique, l'émotion du corps qui bouge, et regarder comment ces pratiques corporelles peuvent être en apparente violence, violentes, elles le sont parfois, mais aussi vont créer une forme de lien social, vont obéir à un certain nombre de codes, et vont permettre finalement ce que Elias aurait pu appeler du controlling, decontrolling of motion, c'est-à-dire une décharge d'émotions contrôlée, d'une certaine façon contrôlée par un certain nombre de cadres. Et évidemment, dans ce travail sur le lien, sur le rapport à l'autre, il y a tout un travail sur le corps, voilà, corps punk. Un travail également sur la question du genre, qui nous est apparu comme une question qui n'est pas si évidente que ça. Parce que au-delà de l'aspect très libertaire du punk, très révolutionnaire en quelque sorte, on se rend compte que la place des filles, par exemple, elle n'est pas si évidente que ça. Le punk, ça reste quand même une affaire de mecs, comme le rock'n'roll d'une manière beaucoup plus large. Hein. Et évidemment, vous allez me dire, il y a les Riot Girls, etc. Oui, mais ce sont des mouvements engagés, féministes, de résistance, à l'intérieur même d'un mouvement qui, finalement, sur 40 ans d'histoire, on s'en rend compte, est quand même légèrement macho. La prépondérance des hommes est évidente. Il suffit de regarder les compiles du milieu des années 80, KO en France, vous avez 120 musiciens, il n'y a pas une fille, hein, sur les pochettes. Pas une seule. Donc travailler sur ces questions de rapport homme-femme, de place des filles dans le mouvement, sur scène, mais pas que, au squat, etc. Et regarder un petit peu, travailler sur ce que le punk génère en termes de rapports sociaux.
Alors notre projet, il est organisé autour des journées d'études, comme celle qu'il y a aujourd'hui. Au début, on a commencé à Paris parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, c'était plus simple, et on les faisait thématiques, par exemple sur les groupes et les musiciens, ou histoire et généalogie, etc. Et depuis 2 ans, la première a eu lieu à Toulouse, on a décidé de faire tourner le projet et ses journées sur des territoires implantés. Alors il y a des fois, on était chez Narcisse au Val d'Ajol, donc ça peut être des endroits un peu plus petits, des grandes villes comme Lyon aujourd'hui. On a fait Rouen, on a fait Toulouse, on a fait Caen, on a fait Montaigu. Et l'année prochaine, on fera le Pays Basque, Dijon, Liège, pour voir avec les questions de francophonie, Montpellier, Marseille, voilà. Donc on va essayer, le but c'est de couvrir le territoire pour aussi essayer de comprendre les spécificités locales du punk, parce qu'on sait bien que le punk en Bretagne, c'est pas le même que le punk du Pays Basque, avec tout le rock radical espagnol, qui a des hybridités avec des frontières, que justement c'est pas statique mais dynamique. Et donc l'idée, c'est aussi de faire apparaître ces différences au sein même d'un territoire qui s'appelle la France. Alors notre projet, il est donc constitué, donc ces journées autour de communication scientifique. On a pris un chercheur qui a l'air sérieux là, pour vous montrer. Mais aussi de tables rondes avec les acteurs. C'est ce qui fait l'intérêt de la chose, c'est d'arriver à réunir les acteurs locaux autour de questions et de parler librement pour faire avancer nos connaissances là-dessus. Alors, depuis cette année, on a aussi un séminaire plus méthodologique qui nous concerne à nous, parce qu'en fait, c'est en termes de chercheurs, c'est pas forcément facile de travailler sur des sur ce genre d'objets. Il y a des relations affectives très fortes. Le fait que beaucoup de chercheurs de notre équipe soient aussi musiciens, donc il y a un engagement dans la scène et pourtant faut rester universitaire. Donc l'idée de ce séminaire méthodo, c'était un peu de démêler tous ces problèmes qui sont beaucoup plus, on va dire, prégnants quand on travaille sur le punk que sur la musique baroque, par exemple. Voilà. Alors notre équipe a la particularité d'être une équipe mixte. Elle est composée de chercheurs de toutes disciplines, plutôt quand même relevant des sciences humaines, hein, histoire, histoire de l'art, musicologie, anthropologie, sociologie, et j'en oublie sûrement, et aussi des acteurs de la scène qui viennent régulièrement, participent, font des photos, contribuent aussi à par leur apport spécifique à ce que le projet soit cohérent et soit dans quelque chose, un gros mot qu'on appelle la science participative, mais en fait c'est quelque chose auquel on croit beaucoup dans Peindre. C'est vraiment une collaboration entre les chercheurs et les acteurs qui permet à tout le monde de parler librement sans hiérarchie comme il y a d'habitude traditionnellement. Notre projet comporte aussi tout un volet, on essaie de former des jeunes générations pour quand on sera vieux, pour prendre la relève. Donc on a quelques étudiants qu'on a mis sur des chantiers. Là, il y a un jeune qui travaille sur le vieillissement de la scène punk. On avait une jeune femme aussi qui a travaillé sur la presse quotidienne et comment le punk a été reçu dans toute la presse quotidienne française pendant 5 ans. Donc ça nous permet aussi d'avoir des jeunes dans le projet et de continuer à le faire vivre du bon côté, on va dire. Voilà, alors vous voyez, pendant les journées, ça c'était une journée sur les cultures visuelles et esthétiques. Il y a même il y avait des performances derrière avec de la peinture qui était faite pendant qu'on parlait. Il y a de la musique aussi pendant ces journées, parce que quand même on a dit que c'était le cœur de l'objet, donc on le montre bien. Là, c'était un de nos chercheurs spécialistes de fanzine qui avait fait un mur de fanzine pour une journée d'études à Caen. Et il y a des expos photos avec Surinsky, qui est lié à notre projet, qui réfléchit sur la scène punk, on va dire, dans la région parisienne au XXIe siècle, sur les corps, sur la musique, etc. Il y a tout un volet aussi dans notre projet de collecte d'archives. Alors là, vous voyez, c'est les archives de la radio éphémère. Il y a Monique et Dominique qui sont présents aujourd'hui. Ils nous les ont amenés, vous voyez, dans les cartons, là, dans la voiture. On les a, on les a triés, inventoriés. C'est Pierre Rabou qui a fait ça. Et ils ont fini, tout bien rangé, tout bien étiqueté. Le but étant évidemment pas de les regarder, mais de travailler dessus et d'arriver à écrire une histoire de cette radio toulousaine et une histoire de la musique à Toulouse sur 30 ans. C'est un appel aussi aux archives, hein. C'est pour ça qu'on est là. L'idée, c'est que voilà, si vous nous confiez vos archives, on en fait quelque chose comme ça. On vous rend les cartons, on les numérise, et puis le but, c'était d'avoir un effet de masse un jour, dans 2, 3, 4, 5 ans, aussi pour arriver à sensibiliser les institutions, pour ouvrir un centre de recherche et de ressources sur, on va dire, les cultures alternatives, où on pourrait conserver ces archives et cette mémoire de manière pérenne et l'ouvrir aussi à tous. Alors, il y a plus que deux petites choses. On a une base de données qui est collaborative, où on y accède sur le site internet du projet. N'importe qui peut rentrer, pas n'importe quoi évidemment, c'est dans des cases, mais elle est organisée surtout autour des groupes et de la musique. Donc, on a tout bien pensé pour que vous puissiez rentrer les données sans forcément vous loguer, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Enfin, l'idée, c'était de pouvoir rentrer des données de manière simple sur les groupes, donc sur les groupes locaux, et que tout le monde puisse le faire pour contribuer à l'édifice, parce que inutile de dire que tout seul, ou même toute notre équipe, on n'y arrivera pas, hein, à faire ça tout seul. Voilà, et le site qui est vraiment... l'adresse, c'est une adresse universitaire, elle n'est pas très sexy, il faudrait qu'on la change, mais ça va être compliqué. Vous pouvez trouver dessus toutes les captations des journées d'études. Il y a plein d'informations, c'est enrichi, plein de liens vers des acteurs. Voilà, c'est une grosse, grosse source de documents. Donc, n'hésitez pas à y aller. Il y a un formulaire de contact, vous pouvez aussi nous écrire. Et c'est ce qui fait le lien entre l'équipe, les scènes locales, etc. Alors, pour finir...
PIND, c'est quoi ?
C'est l'acronyme de Punk is not dead.
Punk pas mort.
Le nom d'un projet de recherche consacré à l'histoire de la scène punk en France depuis 1976 jusqu'à nos jours.
C'est un retour vers No Future qui interroge l'existence et les conditions d'existence de la scène punk en France depuis 40 ans.
Ça parle de musique et de musiciens, d'artistes et de visuels, de la débrouille et de la vie sur scène ou au squat, d'une création en résistance à Caen, Rouen, Paris, Toulouse, Lyon, Rennes, Montaigu, Saint-Étienne.
Ça parle des marges et d'un regard sur l'autre.
Ça parle de la vie, de la poésie et du corps, de la danse et des manches de guitare, des tatous et des marques, des filles et des garçons, de la dope et des avenirs qui en meurent, de la jeunesse et de la vieillesse qui surprend toujours en creux ceux qui pensaient ne pas survivre à nos futurs.
Ça parle de 77 et des années 80, 90, 2000, 2010.
Ça parle d'aujourd'hui et sans doute de demain.
Ça cherche, ça discute, ça polémique, ça gueule parfois, mais toujours pour comprendre.
C'est un projet essentiel par son objet. Le punk, étincelle de vie musicale, faite d'énergie et d'insolence, saisie aux marges et au cœur de notre monde.
Un projet qui permet d'espérer mettre en lumière et valoriser une création musicale et artistique en résistance. Une culture de l'urgence d'agir, forte d'inventivité et de débrouillardise, nourrie des postures politiques, des mots et des hymnes qui ont accompagné et construit des parcours de vie.
C'est un projet essentiel par sa dimension humaine, par les contacts et réseaux scientifiques, professionnels, artistiques, musicaux qui se sont constitués autour d'eux et à travers de PIND et que nous continuerons à défendre et à développer coûte que coûte.
C'est un projet essentiel enfin car nous sommes conscients des enjeux sociétaux qu'il véhicule.
En portant ce projet, qui peut paraître subversif du point de vue académique et sociétal, nous entendons mobiliser un prisme décisif dans la compréhension de la société contemporaine, de ses marges et des dynamiques de résistance qui la structurent.
Nous voulons, à travers le regard que la recherche peut porter sur le punk en France, éclairer le sens que les acteurs de cette scène donnent à leur place et à leur choix, confrontés au défi de la réécriture du monde.
Bref, c'est un truc essentiel, piloté et mis en musique par des chercheurs et des musiciens. Une équipe terrible et tellement motivée.
Do it yourself, just take a look. Voilà, merci beaucoup.
Bien, merci Solveig et Luc pour cette entrée en matière qui présente l'ensemble du projet. Ce projet qui, en arrivant à Lyon, a généré plein de choses, puisque... Pour les gens qui sont là, vous savez qu'il a commencé avant-hier avec un événement sur l'esthétique punk à l'Université Lyon 1, puis le soir la projection du film Diesel au Comédia, puis hier soir le lancement autour de Philippe Gonin au Rock and Eat, et donc aujourd'hui cette journée, et finalement c'est parti effectivement de PIND, c'est parti de cette idée de faire une journée d'études, et tout un tas de personnes se sont agrégées dans la volonté de faire quelque chose et de contribuer à leur manière à ce projet plus large de constitution de production d'une histoire de la scène punk en France.